Alors, nous sommes Sanhedrin Daf Tzadik Alef Amud Alef. Alors, nous sommes la quatrième ligne, là où c'est large. Où la Gemara commence à devenir large, nous sommes quatrième ligne. Tano Rabbanan, Be'esrim va'arba benissan, le 24 Nissan, itnilu dimusnai miuda mirushalayim. Le 24 Nissan, c'est un jour de fête chez les Juifs. Parce que itnatilu, ça a été enlevé, dimusnai, c'est-à-dire les réclamations de Yehuda et de Yerushalayim, que Shebao bnei Afrikiya, la Dunim Israël, l'Ifne Alexandre Smugdun. La Gemara nous raconte qu'il y avait un grand débat à l'époque d'Alexandre le Grand. Quand Alexandre le Grand est venu en Eretz Israël, il a conquis tout le Proche-Orient. Tout le Proche-Orient était en ébullition. C'était vers les années 320 à peu près, 320 avant. Avant le calendrier commun, vers 320, 330, c'était les années Alexandre de Macédoine. Il a régné 14 ans depuis qu'il est devenu il a hérité le trône de son père. Il avait 19 ans, il est venu de Macédoine, Athènes, etc. Et il a conquis le monde, ça a duré 14 ans. Il a conquis tout le Proche-Orient, la Syrie jusqu'en Iran, la Turquie, la Grèce, Vadaï. Après, il a conquis la Turquie, la Syrie, la Perse, tout le Proche-Orient, l'Égypte aussi, et les tonnerres d'Israël aussi. Et alors, à son époque, donc, il y avait beaucoup d'ébullition, tout le monde réclamait ses droits. La Gemara nous raconte qu'il y avait un débat en Eretz Israël. Il faut le remonter en haut, oui. Entre les Knaanim et les Ishmaélim et les Égyptiens. Ils sont tous venus devant lui réclamer Eretz Israël, que c'est leur terre. Alors les Knaanim, ils habitaient où? La Gemara les appelle Afrikim. Alors le mot Africa, nous on sait qu'Africa c'est le continent, l'Afrique. Mais en vérité, Afriki, c'est pas forcément que de l'Afrique. Il y a aussi un endroit en Asie, au Proche-Orient, qu'on l'appelait Afrikiya. Je ne sais pas exactement où. Là, comment revenir dire vraiment l'Afrique, peut-être. Un pays en Afrique. Alors, c'est possible que c'était le Girgashi. Il y avait sept peuples qui habitaient en Eretz Israël et le Girgashi, il est parti. Il y en a qui disent qu'il est parti en Libye. Ils ont trouvé un stèle, je ne sais pas exactement, il me semble. En Libye, je ne sais pas dans quelle ville, à Benghazi ou. Il y a un stèle en Libye quelque part, gravé avec l'écriture phénicienne. Les Knaanim, c'est les Phéniciens dans le monde goy, connus comme les Phéniciens. C'était des grands voyageurs et commerçants. Il y a la culture phénicienne qui était à l'époque de. Entre autres, c'était les Knaanim. Alors, eux, ils sont venus réclamer Israël. Sur cette stèle, il est marqué « Nous avons habité dans le pays de Canaan ». Et on était obligé de partir devant le bandit Josué, comme ça écrit sur cette stèle. Bon, bandit, chacun regarde avec ses lunettes. Alors c'était le 24 Nissan. Donc, ils sont venus devant Macédoine, ils ont dit « la terre leur appartient ». Et ils ont fait un grand jugement. Alors, on va lire la Gemara. « Be'esrim va'arba Nissan », c'était le 24 Nissan que les Juifs ils avaient gagné cette dispute. Cette disputation, donc c'est devenu une fête chez les Juifs et cette fête ont festoyé, les Juifs ont festoyé pendant toute l'époque du deuxième Beth Amikdash. Amroulo, alors que je bats au Bnei Afriki, à la Dan et Mertzissa, le fini Alexandre Mugdon. Mugdon, ça veut dire Macédoine. Amroulo, ils ont dit, Eretz Knaan Shelanohu, la terre de Knaan, ça nous appartient. Tertiv, car il est marqué, Eretz Knaan Ligvulotera, c'est le pays de Knaan selon ses territoires. Mais Knaan avou en dahanhu in shehave. Et Knaan, c'est le grand-père de ces hommes-là, de nous. C'est notre ancêtre. Amalou agvir bempsi salachachamim. Gvir bempsi, on l'a déjà vu hier, c'était un homme intelligent, proche des chachamim, et qui avait une bosse. Alors gvir bempsi, ça, il a dit aux chachamim, tu nous les rechoutes, donnez-moi la permission, veille leur j'irai. Védon, Imahem, l'Ifne Alexandre Smugdoun, moi je vais discuter pour défendre le point de vue des Juifs. Imienatsruni, si eux, ils vont gagner la discussion, et je ne sais pas quoi répondre. Imru, alors vous, les Chachamim, vous pouvez toujours dire, Hedyot Sheba non Nitzartem, vous avez gagné contre un simple juif qui n'est pas les Chachamim, et vous allez réclamer une révision du procès. Et vous pouvez dire après d'autres arguments en disant, le premier procès n'est pas valable parce que c'était un simple, ce n'était pas un sage. Si moi je vais gagner, vous allez leur dire, Torah de Moshe Nitzartem, c'est la Torah de Moshe qui a gagné contre vous. Cet homme-là, il a un autre aval et il n'y a pas de raison de faire une révision du procès. Nathan le rechute. On lui, ils ont donné la permission. Et il a commencé à juger avec eux. Amar Lahem, il leur a dit, mais d'où vous apportez une preuve? Qui vous a dit que le pays de Canaan appartenait à un monsieur Canaan qui est votre grand-père? D'où vous savez ça? Amrolo, ils ont répondu, Minatora. On le déduit de la Torah parce qu'il est marqué dans la Torah. Eres Canaan Likvuloteha. Alors, Amar Lahem, il leur a dit, Afani Loavi Lachem Raya Elaminatora. Alors, moi, pour consolider le droit des Juifs, ma preuve aussi, je l'apporte de la Torah. Vous avez apporté la Torah, j'apporte la Torah. Je n'ai marre, il est marqué dans le texte de Chumash, et il a dit, qui, Noach, Aro Canaan, Maudisra Canaan, Ebed Avadim il sera l'esclave des esclaves à ses frères. Donc les Canaanim, ils sont des esclaves à leurs frères. Alors, qui c'est leur frère? Shem et Yafet. Shem, c'est les Européens. Non, Shem, c'est les Asiatiques. Et Yafet, c'est les Européens. Alors, les Juifs, ils sont de qui? De Shem. Donc, il est. Donc, Canaan, c'est un esclave de Shem. Donc, Eved Canaan et Hassim. Eved Lemion Hassim Lemi. Un esclave qui achète des biens. À qui appartient l'esclave et à qui appartient les biens? L'esclave appartient à son patron. Donc, les biens de l'esclave appartiennent à son patron. Donc, si vous dites Eretz Canaan, c'est à vous. Oui, mais Canaan lui-même, c'est un esclave Hachem. Donc, vous êtes. Donc, c'est pas, vous appartient pas. Velod. Et pas seulement j'ai cet argument-là. Et le Sharikam Hashanim, ça fait plusieurs années, ça fait plusieurs siècles que vous ne nous avez pas servi. Alors, vous êtes des esclaves, vous ne travaillez pas, il faut nous payer maintenant tout ça. Amarlem Alexandros Malka, Alexandros le Grand, il a dit, Erziro Lotchouva, vous êtes obligé de répondre. Ça veut dire que d'abord, il s'est défendu avec la Torah, et après, il est allé à l'attaque. On dit, la meilleure défense, c'est l'attaque. Mais d'abord, il faut donner une bonne réponse. Et après, on y va à l'attaque. Et maintenant, la balle, elle est dans les camps des Knanim. Ils n'ont pas travaillé depuis 500 ans, depuis 1000 ans, ils n'ont pas travaillé. Alors, si vous faites une révision de l'histoire politique, eh bien, il faut nous payer rétroactivement. C'est-à-dire, nous, les Juifs, on n'a jamais demandé cet argent. Mais vous revenez en arrière et vouloir revoir la carte du monde à ce qui s'est passé il y a 1000 ans en arrière, alors d'accord. Si vous revenez en histoire de 1000 ans en arrière, nous allons faire le compte depuis 1000 ans en arrière. Alors, vous nous devez beaucoup d'argent. Alors, l'Alexandrie lui dit, répondez-lui, il a maintenant un bon tana. Amrolo, ils ont dit, nous, là, nos zman, shalosha yamim. Donnons-nous du temps, 3 jours. C'est-à-dire, demande au roi et demande à Akvirpsissa, laissez-nous réfléchir 3 jours pour trouver une réponse. Nathan le Hemzman, le roi, il leur a donné un zman. Batpou, ils ont cherché une excuse, ils ont cherché un argument. Volomatsu ils n'ont pas trouvé de réfutation. Alors, ils avaient peur que maintenant, ils soient obligés de passer à la caisse. Mais à tout de suite, Baruch, ils se sont sauvés. Ils ont laissé les champs semés, c'est-à-dire c'est Knanim en Eretz Israël. Il y avait des Knanim qui habitaient en Eretz Israël, à l'époque d'Alexandre le Grand, parce qu'Ezra n'a pas jeté les Goïms. Ils sont venus en Eretz Israël, ils ont construit les terres vides, mais là où les Knanim étaient installés, ils n'ont rien touché. Eux, ils ont semé, mais ils avaient tellement peur qu'on va leur réclamer maintenant une somme d'argent. Ils ont laissé leurs champs, Kshenzrot, qu'on dit, étaient semés. Le Carmen, que chez nous tous, et leurs vignes qui ont été plantées. C'est une année de Shemitah. Et comme c'est une année de Shemitah, les Juifs n'ont pas semé. Ils n'ont pas récolté. Mais ces terres étaient plantées par les Goyim. Donc il n'y avait pas d'Issur Sfirim. Donc, on avait le droit de manger leurs fruits. Et donc, tout était prêt à être mangé. Donc, c'est devenu un cadeau pour les Juifs. Alors, ici, il faut comprendre beaucoup de choses. D'abord, il leur a dit, d'où vous apportez une preuve? Eux, ils ont dit, notre preuve, c'est de la Torah. Pourquoi ils ont dit, notre preuve, c'est de la Torah? Pourquoi de la Torah? Pourquoi ils n'ont pas apporté une preuve de leur propre livre et de leur propre histoire? Ça veut dire, il faut dire qu'ils n'avaient pas de livre, ils n'avaient pas d'histoire. Je veux dire, en vérité, les Cnaanim, ce n'est pas comme les Juifs. Les Juifs, ils ont une mémoire. Nous avons une Torah, nous avons des mitzvot, nous avons transmis de génération en génération notre histoire. On vit avec ça tous les jours. Pour nous, la sortie d'Égypte est venue en Eretz Israël. Tout ça, on le vit tous les jours. Mais chez eux, mais depuis longtemps, ils ont oublié. Ils n'ont pas une tradition. Ils n'avaient rien. S'ils disent nos livres, ils n'avaient pas de livres. Et s'ils avaient le livre, c'est un livre qui était falsifié à la veille du procès. Ils ont écrit un livre que tout le monde aurait rigolé. Ils étaient obligés de dire, nous nous basons sur la Torah. Ah, si vous vous basez sur la Torah, alors je vous réponds par la Torah. Ça veut dire, la Torah, elle justifie. Canaan, on a pris votre terre. Alors si la Torah, eh bien la Torah, elle a dit que Dieu, il a dit que Canaan, c'est notre esclave. Maintenant, si vous dites, vous voulez pas croire à la Torah, mais on ne va pas croire cette histoire-là que Noé et Dieu, il a dit que les Canaan sont obligés d'être esclaves. Ce livre ne nous engage pas. Ah, ce livre ne nous engage pas? Alors, avec quoi vous venez? Comment vous réclamez? Mais qui vous dit que votre grand-père était Canaan, était ici dans cette terre? Vous n'avez pas de preuves. Vous vous basez sur la Torah. Alors, une des deux. Ou la Torah, elle est fausse, ou elle est vraie. Si elle est vraie, eh bien, vous croyez que vous êtes esclaves à nous. Si vous ne croyez pas, vous n'avez aucune preuve, vous arrêtez de parler. Alors, eux, ils auraient pu dire, on croit à moitié oui, moitié non. Mais ça ne tient pas la route. La moitié oui, moitié non, ah, c'est de la rigolade. Tu choisis ce que tu veux. Tu ne peux pas prouver une preuve d'un livret que tu ne reconnais pas sa vérité. Tu choisis ce que tu veux. C'est comme aujourd'hui, c'est la même histoire. Seulement, à l'époque de la Gemara, les gens, ils étaient plus honnêtes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Palestiniens. Ils disent, voilà. Yeshua Benoun, il a chassé les Pélishtim. Et nous sommes les Pélishtim. Bon, ils ont inventé une histoire à dormir debout. Nous sommes été en Pélishtim. Yeshua Benoun nous a chassés. Et vous étiez cruels. Mais sur quoi vous vous basez? Sur quoi ils se basent? Sur la Torah. Et ils disent, mais c'est marqué dans la Torah. C'est marqué dans ces feuilles Yeshua Benoun. Sont passés par la lame de l'épée. Sur la Torah, ils se basent. Pourquoi ils se basent sur la Torah? Pourquoi pas sur le livre? Il n'y a rien dans leur livre, ils ne savent rien. Ils ne savent que par la Torah. Alors si c'est par la Torah nous a dit pourquoi? Parce que les sept nations, c'était les pires de toutes les nations. C'était l'instauration officielle de l'adultère et de l'assassinat et du vol et toutes les pires des choses qui existent. Et c'était une société qui devait être éliminée. Ou qu'ils changent d'avis. Ils auraient pu changer d'avis, ils ne voulaient pas. Il fallait recommencer une nouvelle société dans le monde. Et des gens criminels. Voilà, c'est ça que la Torah nous dit. C'était justifié. Il fallait qu'ils partent. Alors, vous ne croyez pas qu'ils étaient criminels? Vous ne croyez pas à la Torah? C'est ça. Si vous ne croyez pas à la Torah, qui me dit que Yeshua ben-Nun leur a pris? Mais qui vous dit que vous étiez des Palestiniens? Mais qui vous dit que vous pourrez les habiter? Mais qui me dit qu'il y avait des peuples en Eretz Israël avant vous? Ils n'ont aucune preuve. Ça, mais ils se basent sur la Torah. Alors, écoutez ce que la Torah dit. Notre époque, c'est la chutzpah de répéter ces bêtises. À l'époque d'Alexandre le Grand, ils étaient plus honnêtes. Tous ceux qui savent, aussi les chrétiens, aussi les musulmans, tous ceux qui savent, c'est tous ceux qui ont basé sur la Torah. Et après, ils veulent nous dire qu'eux connaissent mieux la Torah. Ils veulent déformer après la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors. Donc, ils sont partis. Donc, il est sorti un cadeau que les Juifs, ils avaient quoi manger. C'était l'année des Shemitah. Shuv ba'u bnei Mitzrayim. Ici, c'est marqué Pam Achat une fois. Mais il faut effacer les mots Pam Achat parce que c'était le même. C'était le même moment, cette histoire-là. Alexandre le Grand n'est pas venu et 7 années plus tard. Il n'est pas revenu une deuxième fois. Donc, c'était dans le même truc quand il est là-bas, quelques jours, quelques semaines. Ba'u bnei Mitzrayim sont venus. une représentation des Égyptiens, l'Adonim Israël, Nifne Alexandre Mokton. Amrolo, ils ont dit, Hareu Omer, il est marqué dans la Torah, Vashem Natan et Trenham, Beini Mitzraim, tu as mis le charme du peuple aux yeux des Égyptiens, Veaïshelum, et les Juifs, ils ont prêté. Et les Égyptiens, ils ont prêté. Ils ont prêté des objets, nous, là, nous, Kesev, alors maintenant, vous avez pris, on vous a prêté. Quand on fait un emprunt, il faut rembourser. Alors rendez-nous. Amar Gvir Bemsi, c'est la Chachamim. Tenu li reshut. Donnez-moi la permission. Ve'elech vatun imahem. Ifne Alexandros. Imenatzchun ici, vous me gagnez. Imrolem, vous les Chachamim, vous allez leur dire. Hedot shebanu netzachtem. Vous avez gagné contre un simple. Vimani anatzeachotam, si moi je gagne. Imrolem, vous allez leur dire. Torat Moshe Rabbeinu netzachtem. C'est la Torah qui a gagné contre vous et ne faites pas de révision. Là, on le rechute, on lui donne le rechute. On va se dire, même si ça, il n'est pas parti tout seul. Pourquoi il n'est pas parti tout seul? Il était intelligent, le gars. Pourquoi il n'est pas parti tout seul? Parce qu'on ne défend pas le peuple juif sans permission des Chachamim. Parce qu'on peut dire une bêtise. On peut dire une bêtise et après, les autres juifs, ils vont payer pour ça. Il faut leur permission et aussi leur bracha. Et il n'osait pas de parler au nom du peuple juif sans permission. Faut faire très attention. Ceux qui veulent parler au nom du peuple juif, il faut qu'ils demandent vraiment ce que les chachamim disent. Faut parler des bêtises. Mais on voit qu'il a demandé une deuxième fois la permission. Pourquoi il n'a pas dit? Mais j'ai déjà demandé, la semaine dernière, je demandais contre les Afrikim, ils m'ont donné la permission. Maintenant, égyptien, je vais, avec le même permis, je vais défendre une deuxième fois. Il n'a pas raisonné comme ça. Il faut que je demande une deuxième fois la permission. Pourquoi? Peut-être les Khachas, ils ne sont pas d'accord avec la façon comment j'ai défendu. J'ai gagné, mais peut-être cette façon n'est pas bien. Ou peut-être les Khachas, ils avaient confiance contre les Afrikim, mais peut-être les Égyptiens, ils ont de plus fortes anotes. Peut-être je ne saurais pas bien répondre. Il leur a demandé encore une fois la permission. Ils ont donné la permission. Alach vedani mahem. Il a jugé avec eux. Amar lahem. Il leur a dit. Mais raya. D'où vous apportez la preuve que les Égyptiens, ils ont prêté aux Juifs et les Juifs n'ont pas rendu. Amolo, ils ont dit, mina Torah. Notre preuve, c'est de la Torah. De nouveau, ils n'ont pas apporté d'autres preuves. Les Égyptiens, ils ne connaissaient pas leur histoire. Dire que les Juifs qui connaissent l'histoire. Amar Lehen, il leur a dit, Afani, moi aussi, je fais comme vous. Parce que vous tirez de la Torah, je vous réponds par la Torah. C'est ça qu'on appelle tac au tac. C'est toujours la meilleure façon, répondre tac au tac, de la chose que pour détruire l'autre dans l'argument que l'autre, il a dit. C'est mieux qu'un argument étranger de côté. Il faut la chose elle-même dans s'écrouler. Shneimer il est marqué au Moshav bnei Israël yashuvu bemitzrayim 30 shana va'arba'mot shana. Les Juifs habitaient en Égypte 330 ans et 400 ans, 430 ans. Alors, nous là, nous sera Ravuda, chez Shishim Ribo, donnez-nous un salaire de 600 000 personnes chez Shibadetem bemitzrayim que vous avez esclavés en Égypte 30 shana va'arba'mot shana. Et Torah nous raconte que les Égyptiens, ils ont profité des Juifs et se sont comportés honteusement. Mitzrayim befarer. Toutes les souffrances. Alors, ils ont donné à manger aux Juifs une misère de survivre, mais c'est pas ça le salaire. On n'a pas reçu un bon salaire. Donc, vous allez faire un calcul, 600 000 personnes, 430 ans. Bon, en vérité, c'est pas pendant 430 ans qu'il y a 600 000. Au début, il y a 70, c'est après 100. Multipliez. Mais vous savez, donc, faites le calcul. Faites le calcul, les 70 sont devenus 600 000. Faites un calcul, comment c'est le développement et comment on travaille. Et vous faites un prix normal, combien ça coûte une journée de travail, et faites le calcul. Et après, combien de l'argent et de l'or on a déjà pris. Et s'il manque, allez, vous allez nous payer, monsieur. Donc il se défend, et plus il attaque l'autre. Il faut attaquer après l'autre. Aujourd'hui, dans les procès aussi, c'est comme ça. Quand quelqu'un il fait un procès contre l'autre, injuste, des fois c'est même quand c'est juste. En tout cas, quand c'est injuste, il faut se défendre, il faut attaquer après l'autre et que l'autre paye. Des fois, il faut que maintenant l'autre y passe à la caisse. Si Reuven a fait tort à Shimon et il a encore la chutzpah de réclamer à Shimon d'argent. pour que Simon se défende et réclame maintenant le roi. Maintenant, c'est à lui de payer. Alors, Amarlo Alexandre Smogdon et Zirlo Tchouba, rendez-lui une réponse. Amarlo, ils ont dit, donne-nous 3 jours. Pourquoi 3 jours? 72 heures, on va réunir tous nos sages. Nathalie Hemsman, il leur a donné du temps. Batko, ils ont vérifié. Velo Matsutchouba, ils n'ont pas reçu. Ils n'ont pas trouvé une réponse. Miad Hinichu Sadotem, Kshenzwot, ils ont laissé leur champ semer. Carmem Kshenutot, leurs vignes qui ont été plantées. Ubarhu, ils se sont sauvés, l'Égyptien. Ota Shana, Suita Yeta, c'était l'année Shmita. C'était la même année de Shmita. Je trouve Pamachat ici aussi, il ne faut pas dire Pamachat, c'était la même fois. Bao Bnei Ishmael ou Bnei Ketura, le Dolim Israël. Les enfants d'Ishmael, les enfants de Ketura, donc les Arabes, toutes ces populations au Proche-Orient, ils sont venus à donner Israël, critiquer les Juifs. Les finales Alexandre Mogdoun, Amrolo, Eretz Kenan, Shelanu, Veshelachem. C'est notre terre et votre terre. Vistechtiv, car il est marqué Veil, et Toldot Ishmael, Ben Abraham. Voici la descendance d'Ishmael, fils d'Abraham. Alors donc, Ishmael, c'est un fils d'Abraham, et après encore Bnei Ketura, c'est les 6 enfants qui étaient les 6 enfants qu'Abraham a eu de Ketura à la fin de sa vie, que ce sera Hagar ou que ce ne sera pas Hagar, ça ne change pas. En tout cas, il y a des Bnei Ketura. Les Bnei Ketura, comme dit le Rambam, ils se sont tous mêlés avec Bnei Ishmael, ils se sont tous mariés ensemble, Bnei Ishmael, Bnei Ketura. À la fin, c'est tout ça, c'est Arabes, c'est des enfants. Pas tous, mais la grande majorité, c'est des enfants d'Abraham. Alors, ils sont mêlés. Donc, vous êtes les enfants d'Abraham. Nous sommes les enfants d'Abraham. La terre a été donnée à Abraham. Alors donc, c'est à nous et à vous. Pourquoi ils ont dit à nous et à vous? Pourquoi ils n'ont pas dit à vous et à nous? C'est parce qu'ils ont dit Ishmaël, c'est le premier fils. Donc, si c'est le premier fils, il a le double. Donc, 2/3 pour nous et 1/3 pour vous. À Marlin, où il y avait 8 enfants. Ishmaël, après Yitzhak, après encore 6 enfants. Donc, il faut 8 parts. Et la part de double, ça fait 9 parts. Donc, Ishmaël va prendre 2 parts. Et les Juifs, 1 part. Et après, les Bnei Ketura, chacun 1 part. Nous, les rechutes, Veilech Vadouni Mahem. Donnons la permission, je vais juger avec eux, le final Alexandre Smogdon. Alors, peut-être, en vérité, toutes les Tatanot, c'est au même moment. Et quand il a demandé, il a demandé pour ça. La Gemara a fait de ça 3 histoires, pour bien cerner chaque histoire à part. Peut-être en vérité, il a demandé la permission pour tous les 3 d'un coup. Iminetzrouni amrou hedu tchebanu nitzartem. Si vous gagnez, vous allez dire ça un simple. Vimani netzeratem, amalem turot mosher beno nitzartem. Natno rosut, on lui a donné permission. Achvedanimahem. Amar lehem echanatem evim raya. Amrolo, ils ont dit minatora. Amarlem, il leur dit, Afani lo avira elimina Torah. Alors je réponds par la Torah. Neymar, vaïten Abraham et kol asher lo li Yitzhak. Et Abraham, il a donné tout ce qui lui appartenait à Yitzhak. Libnei ha-Pilakshim, asher l'Abraham, Nathan Abraham atanot. Et aux enfants de Pilakshim, asher l'Abraham, les enfants des concubines, alors donc, c'est Ketura, elle est considérée comme une concubine. Ça veut dire quoi une concubine? C'est pas la femme qui crée le prince héritier, un roi qui a une femme et des concubines. C'est-à-dire, le prince héritier, c'est toujours de sa ikar femme, pas des concubines. Alors, Nathan Avraham Matanot, il leur a donné des cadeaux et il les a renvoyés. Vaishal Choto, Meal, Menon Yitzhak, et l'Eretz Kedem. Il leur a dit, vous quittez Eretz Kenan, je donne à mon fils Yitzhak, et vous, je vous donne des cadeaux et vous partez. Alors, Epsha Nathan Agtin Lebanaf, un père qui a donné un testament, et dans ce testament, il a dit, ce fils héritera, Rayav, pendant la vie, il a fait un partage, il a dit, les enfants, ils doivent se quitter un l'autre, et personne doit prendre la part de l'autre, c'est moi qui ai donné, est-ce qu'un fils, il peut réclamer la part de son frère? Non, pourquoi? Parce que ça appartenait au père. Un père, il a 8 enfants. Maintenant, le père, il fait un testament. Ce fils-là hérite 1 million. Ce fils-là, il hérite 200 000. Ce fils hérite la terre. Ce fils hérite un palais. Ce fils, il a les bijoux. Ce fils, il a mon pétrole. C'est comme ça. Tout appartient au père. Le père, il peut faire ce qu'il veut. Il a donné Eretz Kenan aux Juifs, aux enfants d'Yitzhak. Et il a donné d'autres cadeaux aux autres. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent de Yitzhak? Vous pouvez rien réclamer. Alors, il leur a donné cadeaux, il les a renvoyés. Donc, vous n'avez plus rien à dire. Maï matanot. C'est quel matana? Alors, quel matana il leur a donné à ses enfants de Bishma et Ketura? Amar birme bar Abba, melamet shemassar lehem shem Touma. Il leur a donné le nom de Touma. C'est-à-dire quoi, le nom? Ça veut dire Touma. Shem Touma, ça veut dire de la magie, Rashi raconte. Kishuf o maase shedim. Il y a de la magie. Il y a des formules magiques. Kishuf maase shedim, c'est un demi, c'est demi-magie. C'est pas maase la magie, c'est un demi-magie. Kishuf, c'est la vraie magie. Et il leur a donné. Et vous partez. Ça, c'est le cadeau qu'il a donné. Pourquoi Avraham Avinu, il a donné ce cadeau? C'est quoi le sens de ce cadeau? Ils vont faire quoi avec ça? Ils vont faire de la magie. Ça va leur servir à quoi? Alors, est-ce que Bahalan Go, il a le droit de faire de la magie? Alors, il y a Machloket dans la Gemara Sanhedrin. Est-ce que les Bnei Noach, pour eux, c'est permis ou c'est interdit de faire de la magie? Pour un juif, c'est Chayav Mita. Un juif qui fait de la magie, il est Chayav Mita. Pour le Go, il y a Machloket. Il y en a qui permet, il y en a qui interdit. Donc, d'après l'avis qui permet, donc, chez Kumrach, il a donné Kishuv Maase Shedim. Maintenant, d'après le Tanakh qui interdit Kishuv pour un goy, donc on ne peut pas dire Kishuv, on va dire seulement Maase Shedim. Ça veut dire c'est la demi-magie. Maase Shedim, c'est demi-gémie. Demi-magie. Mais pourquoi Avram leur a donné? Parce qu'ils l'ont réclamé sûrement. Ils ont dit, papa, donne-nous un cadeau. Vous voulez quoi comme cadeau? Un chocolat. Bon, alors je vous donne un chocolat. Mais non, ils n'ont pas demandé des chocolats. Ils ont demandé quoi? Donne-nous de la magie ou Maase Shedim. Oui, d'accord, je vous donne. Je donne un pouvoir. Je vous donne le secret. Et pourquoi il leur a donné ça? Et pourquoi eux, ils ont réclamé ça? C'est quoi le sens qu'ils ont réclamé? C'est parce qu'avec la magie, on peut faire des petites traluides. Et ça ressemble un petit peu comme la Havdil, comme les prophètes, ils font des miracles. Et les prophètes qui parlent avec des malachim, et ils ont des illuminations du ciel. Et la Maase Shedim, c'est quelque chose qui ressemble. Donc ça va les contenter. Comme ça, ils peuvent penser, ils ont reçu quelque chose comme Yitzhak. De toute façon, le vrai Ruach HaKodesh ne peut pas recevoir. Ils ne sont pas prêts pour ça. Donc on leur donne quelque chose, un ersatz, quelque chose qui ressemble. C'est comme la fameuse histoire. Il y avait une fois un père qui a acheté une nouvelle voiture. Et avec un Renault, 50 000 euros à la maison, super beau et tout, il met dans la garage. Il avait un gamin de 7 ans. Alors il a vu, regardé la voiture de papa. Alors il a dit à sa mère, moi aussi je veux une voiture comme ça. Et le père, il est venu, moi aussi je veux une voiture comme ça. Bon, on pouvait pas lui donner. Alors, le lendemain, le père, il vient dans le garage, il voit que le rétro, il est cassé. Mais qui a cassé le rétro? Fiston, pourquoi t'as cassé? Eh ben, je veux aussi une voiture comme ça. Oh là là. Et le lendemain, il arrive en garage, les pneus crevés. Et le métal, la carrosserie est cabossée. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec Fiston? Alors, le père, il dit, d'accord, je t'achète aussi une voiture. Le fils, il met la même. Il achète la même. Quoi, c'était un Renault, je sais pas comment il s'appelle, un Renault truc. Voilà, je veux la même. D'accord, la même. Et la mère, elle avait archi peur, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant, le père? Et le père, il est revenu le soir à la maison, il a acheté exactement la même, une majorette. Il y a les petites voitures majorettes qui coûtent 3,50 € à Leader Price. Majorette, mais la même. Et le fils, il était content, il a joué avec. C'est la même voiture que papa. Il est parti au GAN, il est parti à l'école. Mon papa, il a acheté une super voiture. C'est la même, regardez, exactement la même. Il s'est joué avec pour 3,50 €. Parce que pour sa tête, en vérité, c'est. Pour un enfant, il n'a pas besoin de la voiture pour rouler. Il a besoin d'une majorette qui ressemble. Ça, c'est les Bnei Ishmaël. Ils ont vu Yitzhak Avinu, il a de Ruach HaKodesh. Avoir une Ruach HaKodesh. Yitzhak, il a. Il peut ordonner aux anges, comme Sarah Imenu. Elle est venue chez Paro, elle a donné des ordres, comme Malach de frapper. Paro, et Kol Beto, Negaim Gedolim Bet Beto. Pourquoi le Dvar Sarai et chez Avram, Sarai le dit mal à frappe, il a frappé. Et Paro, il a vu ça. Il dit, c'est merveilleux, je mettrai ma fille dans la maison. Et il a donné Agar comme servante de la maison d'Avram. Il était émerveillé comment Sarah peut ordonner aux anges de punir les méchants. Alors c'est comme ça qu'il a donné Agar. Agar est un tzaddik, oui, mais rien à voir avec Sarah. Et après, il s'enorgueillissait, il se disait que je suis plus que Sarah. En tout cas, ils ont vu qu'Avram et Sarah, ils ont un pouvoir d'utiliser une force magique pour punir ceux qui les attaquent. Alors les Ismaélites, les Keturah, ils ont dit, nous aussi on veut cette force magique. Mais Abraham, il ne peut pas leur donner la Nevoah, il ne peut pas leur donner le Ruach HaKodesh. Alors qu'est-ce que vous voulez? On veut Maaseh Shedim, on veut ce qui chauffe. Si quelqu'un veut nous faire du mal, on veut le détruire d'une façon magique. Très bien, je vous donne. Il leur a donné le secret, comment manipuler Shindalet, comment manipuler la magie. Et comme ça, vous pouvez vous protéger, il n'y a pas de problème. Eux, ils étaient contents, septième ciel. Voilà, ils ont reçu leur majorette, ils étaient contents. Alors, Nasarlem Shem Touma. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces Bnei Ishmael? Ils sont partis. Ils sont partis, bien sûr, ils ne pouvaient pas répondre. Donc, ça, c'était les 24 Nissan. Alors, soit la première histoire, soit toutes les trois histoires, ils étaient pendant cette époque. En tout cas, les 24. Ça a été terminé. Donc, quand il commençait ce procès, je ne sais pas, au moins il y avait 3 jours de réflexion. Donc, ça commençait quoi le 24? Donc, ça commençait quoi le 21? Le 21 Nissan? 21 Nissan, c'est quoi? 15, 16, 17, 18, 19, 20, c'est le sixième jour de Pessah. Le procès commençait le sixième jour de Pessah. Après, ils ont dit, donnez-nous 3 jours. Donc, ici, un jour, donc 22, 23, 24. Ou peut-être c'était un jour avant. Bon, et là, le 24, c'était terminé. Et donc, ils se sont tous sauvés. Ils se sont tous sauvés. Un jour, Mistama, c'est cette histoire. Mistama, c'est une prélude, c'est une allusion de ce qui va se passer à la fin du temps. Fin du temps, il y aura un grand jugement. Un grand jugement, les chrétiens vont venir, les musulmans ils vont venir, ça qui va venir, c'est à nous, c'est à nous. Et sur quoi ils vont se baser? Ils n'ont pas d'histoire, eux. Ils vont baser sur la Torah. On va répondre par la Torah. Ils vont demander 3 jours ou je ne sais pas combien. Ils vont partir après. Amale Antoninus, le Rebbi. Antoninus, il a dit à Rebbi. Qui c'est Antoninus? Antonin. Antonin. C'est l'empereur romain. Il a dit à Rébi, c'était Antonin à l'époque de Rébi. Il y avait plusieurs empereurs romains qui venaient de la famille Antonin. Il y avait plusieurs rois et un, il s'appelait Marc Aurèle. Toujours ceux qui discutaient avec Rébi, c'était Marc Aurèle. L'empereur Marc Aurèle qui est connu chez les Goïms comme le seul empereur qui était droit. L'empereur qui était un homme pieux, un homme réfléchi. Un homme qui cherchait le pouvoir et l'argent, etc. Antonin est connu. Il a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Les Pensées pour moi. J'ai lu ce livre, je vais passer dessus. Un livre qui a le moussard comme, c'est le moussard comme l'Yiddishkeit. Ça correspond à l'Yiddishkeit. Que le monde entier est géré par une force et tout est lié. Et l'homme, il doit être correct et ne pas courir des bêtises et la justice. Un bon livre de moussard. Alors, c'est Antoninus, c'était l'ami de Rebbi. Alors, il a régné, si je ne me trompe pas, de l'année 161 jusqu'à l'année 180. C'était aussi l'époque de Rebbi. Shama, le corps et l'âme. Ils peuvent se justifier devant le jugement. Pour dire nous sommes pétourim pour nos péchés que nous avons faits, nous ne sommes pas obligés d'être châtiés. Keitzat, comment? Gouf Omer, le corps il dira, Neshama Chatat, c'est l'âme qui a fauté. La preuve, chez Misham, chez Pir, chez Mimini, depuis que l'âme m'a quitté, je suis comme une pierre morte dans la tombe et je ne fais pas d'avérat. Le corps lui-même ne peut pas fauter parce que depuis que la neshama m'a quitté, moi je ne fais rien de mal. Donc c'est bien la neshama le fauteur. Ou neshama omeret, l'âme dit, Ufrata, c'est le corps qui a fauté. Shemiyom depuis le jour que j'ai et que le corps humain m'a séparé de moi, areni pourachat ba'avir. Moi je vole dans l'air, ketzipor comme un oiseau. Les âmes de Rechaïm, souvent ils peuvent pas trouver du repos, ni au Gan Eden, ni Gehenem, il y a des fois quelque chose entre les deux. On est pourachat ba'avir. Mais je fais pas des bêtises, je fais pas des avirot. Donc, si j'ai fauté quand j'étais dans le corps, c'est bien le corps qui m'a entraîné. Alors, chacun a la bonne excuse. Donc, comment Dieu va juger? Amarlei, à la Rebbe, il a répondu, Emshelocha Machal. Je te donne un exemple. Ma'adavardemi, à quoi ça ressemble? Le Melech Vassavadam, un roi en chair et en sang. C'est alors Pardes, il avait un verger, Naé, un beau verger, Vayoubo Bechorot, Naot. Il y avait des figues de grande qualité. Il a nommé deux gardes. Un était paralysé, l'autre était aveugle. Alors, elle est partie, le roi. Et vous allez me garder ce verger. C'est quoi ce verger? C'est le Gan Eden, avec des beaux fruits. C'est le Gan Eden. Donc, il écrit à Damarichon. Il écrit à Damarichon avec un corps, avec une âme. Amar lo chiger le souma, le paralysé, il le dit à l'aveugle. Bechorot naot ani roeb pardes. Moi, je vois des très belles figues dans ce verger. Et je voudrais bien les manger, mais je suis paralysé, je ne peux pas bouger. Alors, bo, viens, varkiveini, et je voudrais chevaucher sur tes épaules. On y vient, le ochlam, et nous allons les apporter, et nous allons les manger. Alors, l'aveugle n'a rien vu. Il n'a pas vu qu'il est à côté des figues. Mais l'autre lui a dit qu'il y a des figues. Alors, je te crois. Donc, l'aveugle, il a pris le paralysé sur ses épaules. Donc, le paralysé l'a chevauché sur l'aveugle. Et l'a amené vers l'arbre. Ils ont mangé. C'est comme Adam et Chava, ils ont mangé le fruit au Gan Eden. Les Yamim, après un certain temps, Baal Pardes, le propriétaire du Pardes est venu. Amar lehem b'chorot naot heichenhen. Où sont ces belles figues? Amar lo chiger, le paralysé, il a dit, Klum yesh li reglaim lehalech ba'en, est-ce que moi j'ai des pieds pour que je puisse m'approcher? Vous voyez bien que je ne suis pas fautif. Moi je ne peux rien faire, je ne peux pas bouger. Donc allez, vous n'allez pas me soupçonner. Alors, Amar lo le souma. Alors, après, il a demandé au aveugle, alors c'est toi? Amar le souma l'aveugle, il dit, Klum yesh li enaim lirot. Est-ce que moi j'ai des yeux pour voir? Je n'étais même pas au courant où se trouve, comment je vais trouver cet arbre et comment je vais trouver ce fruit. Alors, ce n'est pas moi le fautif. Maasa, qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a mis l'aveugle sur le. Il a mis le paralysé sur l'aveugle. Et il a dit, allez-y, marchez. Et ils ont marché, ils ont trouvé bien sûr le paralysé, il a guidé l'aveugle. Donc il a pu juger ensemble. L'âme seule, on ne peut pas juger. Le corps seul, on ne peut pas juger. On peut les juger ensemble. Ah, Fakadeshbokha, il va faire la même chose. Mais il vient Neshama, il prend l'âme. L'âme dit, je n'ai pas fauté. Le corps, je n'ai pas fauté, je ne peux pas fauter. Dieu, il met la Neshama dans le corps. Alors là, il peut les juger ensemble. Vous allez arrêter de faire le clown. Ensemble, vous avez fauté. Shneimar, le verset, il dit, Yikra el Hashamayim me'al. Dieu va appeler le ciel en haut, Velaharetz, la dinimo, et vers la terre pour venir au jugement avec lui. Yikra el Hashamayim me'al, zu neshama. Dieu va appeler neshama. Tu es monté vers le ciel. Viens, viens, je te parle de quelque chose. Mais là, reste le dinimo, Zéagouf. Viens, Neshama, remets-toi dans le corps. Et voilà, comme ça, ensemble, vous avez fauté. Et comme ça, Hachem, il va juger. Amale Antoninus le Rebbi. Alors, Antoninus, il dit à Rebbi, Mipnema, Chama, Yotza, Bemizrach. Pour quelle raison le soleil sort de l'est. Veshokad b'ma'arav, elle se couche à l'ouest. Pourquoi? Amarlo, il a dit, Yahabe ipre, si ça avait été le contraire, Namehache avet amrali, tu me reposes la même question. Ça veut dire quoi? Tu poses une question. Pourquoi ça commence à l'est et finit à l'ouest? Ça aurait pu être le contraire. Il dit oui, ça aurait pu être le contraire. Alors pourquoi c'est comme ça? Et si ça avait été le contraire, tu me redonnes pourquoi c'est le contraire? Et donc quoi? Il faut bien une façon. Comme il faut une façon, alors tu ne peux pas poser la question pourquoi comme ça? Une des deux. Une des deux, c'est équivalent. Comme c'est équivalent, il a choisi une. Ce n'est pas une kusha. Tu n'es pas obligé d'imaginer qu'il y a quelque chose de spécial. Amal a dit, je veux te dire comme ça. Mipneima shokad b'marav. Est-ce qu'il y a vraiment une raison pourquoi elle se couche dans l'ouest, à l'ouest? Est-ce qu'il y a une raison? Ou il n'y a pas de raison? Tu ne peux pas donner une raison? Amarlo, il lui a dit que dei liten shalom la connaît, afin de dire bonjour au Créateur. Je n'ai marqué car le texte est dit Utsva Hashemayim Lecha Mishtachavim. Et l'armée céleste à toi se prosterne. C'est quoi l'armée céleste? L'armée, une armée, où il y a une armée? Au ciel, il y a une armée. Je veux dire les astres, le soleil, la lune, les étoiles. Le soleil, c'est une. Les étoiles, il y en a des milliards. C'est une armée entière avec plein de soldats. Ils se prosternent, l'cha, à toi, Dieu. Et donc quoi? Et Dieu, kavayachol, la shrina, elle est col côté. La shrina, kavayachol, elle est côté ouest. C'est quoi la shrina, elle est côté ouest? La shrina, elle est partout. Mais elle est à certains endroits plus visible, comme on avait dit au Beit HaMikdash. D'un côté, à Kadosh Baruch Hu, il est partout. Et d'un côté, il y a certains endroits. On dit dans le langage de Zohar, même Malé Kol Almin, ou même Sabef Kol Almin. Il entoure tout le monde et il est à l'intérieur. Il y a des endroits où il est plus spécifique, au Beit HaMikdash. Kol Makom Asher Avo Elecha, Avo Alecha Verachticha. Les endroits où je permets qu'on prononce mon nom, c'est-à-dire au Beit HaMikdash, que Dieu permet au Kohanim de prononcer le nom du Yud Kevav qui est clairement, c'est l'endroit où il est plus. Et c'est lié avec l'ouest. Mais l'ouest de quoi? De l'est, du nord, du sud, à l'intérieur du Beit HaMikdash lui-même. Qu'est-ce que dit Rashi? Kedei liten shalom la kone, la Kadosh Baruch Hu, shashchina b'ma'arav. La shchina, elle est à l'ouest. Le Beit HaMikdash, il est construit de manière que quoi? Et la porte du Beit HaMikdash est côté est. Et après, on avance, et le Kodesh HaKodeshim est à l'ouest. Le matin, quand le soleil se lève à l'est, les rayons de soleil passent par la porte qui est ouverte jusqu'au Echal, jusqu'à la Hazara. D'ailleurs, ils avaient mis un lustre. Ils avaient mis Hilni Hamalka, Hélène la reine, elle a mis un lustre en or et on voyait les rayons du soleil après. En tout cas, au Ohel Moed, quand les Juifs étaient dans le désert, aussi c'était comme ça. Aaron et Moshe et les enfants, ils ont campé à l'est du Mishkan. Là-bas, il y avait la porte pour rentrer dans la Chatzar à Mishkan. Et le Kodesh HaKodeshim était à l'ouest, toujours à toutes les machanés, tous les endroits où ils ont campé dans le désert, toujours le Mishkan était installé de façon que le Kodesh HaKodeshim est à l'ouest. Et on rentrait par l'est. On aurait dû prier vers l'ouest alors. Pourquoi nous prions vers Mizrach? En vérité, quand on dit on prie vers Mizrach, c'est en vérité, c'est pas Mizrach que pour les gens qui habitent à l'ouest. Comme chez nous, les Juifs qui habitent à Moscou, ils ne prient pas vers Mizrach, ils prient vers le sud. Quelqu'un qui habite à Moscou, Yerushalayim, c'est pile dans la ligne d'Yerushalayim, il prie vers le sud. Un Juif qui habite à Yémen, eh ben, il prie vers le nord. Et les Juifs qui habitent en Irak, à Bagdad, eh bien, ils prient vers l'ouest. Chez nous, on dit toujours Mizrach, parce que les Juifs qui habitaient au Maroc, les Juifs qui habitaient en Espagne, en France, en Tunisie, on priait vers l'est. Mais les Juifs de Moscou, ils priaient vers le sud. Alors, mais donc, à l'intérieur du Yerushalayim, la forme de Beth Amikdash, il est positionné de façon que le Kodesh HaKadoshim, là où la Shrina, il est la plus dense, la densité de la Shrina, et les côtés est du Beth Amikdash. Et ça se présente maintenant que le soleil va se coucher vers l'ouest. Se coucher, ça veut dire se prosterner. Quand on se couche, quand le soleil d'en haut vers le bas, c'est une façon comme dire, je vais me prosterner devant Dieu. Donc le soleil, c'est le guide de toutes les étoiles, c'est le plus fort, c'est le représentant. Eh bien, il s'incline devant Hachem. Amarlo, il lui a demandé, Veteitat palgederakia, mais on aurait pu s'imaginer que le soleil se lève à l'est. Elle se lève à l'ouest, elle n'a que venir de l'ouest, jusqu'à midi. Vetiten shlama, veteul. Et après, elle dit bonjour, elle se prosterne. La forme n'était pas obligée de l'est vers l'ouest. Ça peut être la moitié, après, un aller-retour. Alors, il dit, Mishum po'alim, à cause des ouvriers, ça va perturber les ouvriers, ils ne vont pas savoir à quel moment va arriver le soir. Ou Mishum ovredrachim, et les gens qui voyagent. Les gens qui voyagent, ils vont se prosterner. Ils doivent savoir combien des heures nous avons encore jusqu'à la nuit tombe. Alors, quand le soleil va disparaître, il est qu'un marchir pitom, c'est-à-dire, Rashi dit, le soleil aurait pu venir jusqu'à la moitié, se baisser et disparaître. Et disparaître très vite. Comment il peut disparaître très vite? Je ne sais pas exactement ce que la Gemara veut dire, mais en tout cas, il existe des endroits dans le monde, à l'équateur, où le soleil disparaît très vite. Quand le soleil arrive vers le bas, on voit tout le soleil, et une minute après, le soleil est entièrement sous le horizon, et c'est l'obscurité totale. C'est entre les 23e truc vers le nord, 23e, j'ai oublié comment ça s'appelle, vers le sud, c'est entre les deux. Donc, en tout cas, autour de l'équateur, la shkia, elle est très courte. Plus qu'on y va vers le nord, plus qu'on y va vers le sud, plus qu'on s'éloigne l'équateur, le Ben HaShemashot, il est long. En France, il est long, le Ben HaShemashot. Plus qu'on est vers l'équateur, c'est court. Donc, c'est phénoménal. Si quelqu'un... Il habite à l'équateur, il ne fait pas attention, il voit le soleil, il est dans sa chambre, il voit le soleil, où il dort, il dit, ouais, le soleil a encore beaucoup de temps. Et 3 minutes après, il est dans l'obscurité totale. Et quand il est à Kadesh Baruch Hu, il aurait pu faire un certain système, je ne sais pas exactement comment, que c'est toujours comme ça. Il a fait, non, ça marche doucement, et ça marche doucement, ça commence à l'est, ça finit à l'ouest, et dans nos endroits, il y a le temps qu'on peut bien calculer quand le soleil va disparaître. On va continuer demain à 5 h.